problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Voilà, vous venez d'acheter un véhicule ou encore, ou soit une maison appartenant à une maison, voilà. Et sachez que ce n'est pas tout. Il faut aussi procéder au changement des titres des propriétés. Certaines personnes préfèrent garder les titres des propriétés de leurs vendeurs, les anciens titres, afin d'échapper à certains frais à payer à l'État. Mais c'est pas très bien d'après ce qu'on a reçu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment procéder à la mutation des biens, meubles et immeubles? On en parle aujourd'hui avec Maître Guylaine Malher, Moudi Kereza, consultant à l'ONG RCN Justice et Démocratie. Encore une fois, Maître Guylaine, bonjour.
Bonjour Jordi, bonjour.
Alors, c'est quoi une mutation?
Une mutation, très simplement, c'est le transfert de la propriété d'un bien,
oui,
d'une personne à une autre.
Alors si j'achète par exemple une parcelle, ça ne suffit pas, il faut encore faire cette opération.
Très bien, c'est à ce niveau-là qu'il y a quelques nuances dans la loi.
Oui.
La loi distingue généralement les biens qu'on appelle les biens meubles, c'est-à-dire les biens qui peuvent être déplacés,
oui,
et les biens dits immeubles, et en l'occurrence le sol et les bâtiments qui sont construits sur ce sol. Là, nous sommes dans les biens qui ne peuvent pas être déplacés, ça veut dire les biens immeubles.
Oui.
Alors, s'agissant du principe général, c'est que dès que on a acheté un bien, c'est-à-dire dès qu'il y a l'accord entre le vendeur et l'acheteur sur le bien et sur le prix,
mmh,
eh bien, la propriété est automatiquement transférée du vendeur à l'acheteur. Mais s'agissant des biens immeubles, et particulièrement les maisons et le sol,
oui,
la même loi introduit une exception au transfert automatique de propriété en disant que, s'agissant d'une maison ou d'un immeuble, l'on ne devient propriétaire que lorsque les formalités d'enregistrement sont accomplies au niveau du bureau du conservateur des titres immobiliers, c'est-à-dire dès que vous avez eu votre certificat d'enregistrement, alors vous devenez propriétaire.
Oui.
Il y a donc des nuances qui sont établies par la loi selon le mode d'acquisition du bien et selon la nature du bien qui est acquis.
Parce qu'il y a certaines personnes, vous achetez votre parcelle, on vous remet soit les livrets des logeurs, vous avez votre l'acte de vente, cela ne suffit pas.
Effectivement, pour le transfert de propriété des immeubles, donc des maisons, pour parler simplement,
oui,
le simple acte de vente ne suffit pas. Dans le cas des maisons, l'acte de vente rend l'acheteur et comment dire propriétaire potentiel,
oui,
du bien, c'est-à-dire il a la vocation à devenir propriétaire mais il ne l'est pas encore. Il devient effectivement propriétaire dès que il y a l'établissement d'un nouveau certificat d'enregistrement en son nom,
mm-hmm,
et l'annulation de l'ancien certificat d'enregistrement qui appartenait à l'ancien propriétaire. Voilà ce qu'il faut s'agissant des maisons, des bâtiments. Alors pour ceux qui ont des livrets de logeurs,
oui,
il convient de noter que ces titres en principe sont caduques, ils n'ont plus de valeur dans notre loi actuellement. Sauf s'ils ont été établis avant 1973, ça veut dire avant la loi qui les supprimait. Il est prévu que de tels titres soient transformés,
oui,
en certificat d'enregistrement au profit, oui, de ces propriétaires-là. Voilà donc, la simple remise du livret de logeur ne constitue pas le transfert, n'effectue pas la mutation de la propriété, mais peut constituer une preuve de ce qu'il y a eu effectivement vente entre l'acheteur et le vendeur.
Mais pour certains qui achètent déjà, par exemple, le propriétaire avait déjà un certificat d'enregistrement, j'achète la parcelle, il me remet ses certificats en son nom et je peux le garder tel quel où il faut immédiatement procéder à la mutation.
Effectivement, j'ai suivi attentivement votre introduction de tout à l'heure où,
oui,
vous avez fait état du fait que certaines personnes, pour éviter certains frais préfèrent
payer, oui,
garder tout simplement les titres qui appartenaient à l'ancien propriétaire.
Oui.
Mais vous savez qu'en droit, il faut être très prudent. Lorsque le certificat d'enregistrement de l'ancien propriétaire existe encore en son nom et qu'il n'a pas encore été annulé, juridiquement, si vous allez en justice pour ce bien-là, c'est lui le propriétaire.
Oui.
Donc, il convient de sécuriser votre acquisition en obtenant du conservateur des titres immobiliers la mutation, justement, et c'est le thème de notre émission,
mm-hmm,
des droits qui étaient consacrés par l'ancien certificat d'enregistrement en votre faveur. Concrètement, le conservateur des titres immobiliers annule l'ancien certificat d'enregistrement et en établit un autre au nom de l'acquéreur de la maison. Mmh. Évidemment, cela ne se fait pas gratuitement et il faut payer des droits proportionnels qui sont, je crois, des 6% oui. de la valeur déclarée de l'immeuble et plus d'autres frais de l'État, quoi. Donc, c'est par rapport à ça que les gens souvent sont réticents pour effectuer la mutation à leur nom. Oui. Mais lorsque viennent des procès, lorsque viennent des contestations, ils sont surpris une fois en justice de s'entendre demander le titre qui établit leur propriété. Oui. Et à ce moment-là, il n'y a pas de certificat d'enregistrement à leur nom et le juge n'a pas d'autre choix que de dire que le propriétaire de l'immeuble, c'est celui qui détient le certificat d'enregistrement établi en son nom.
En son nom. Et il y a certains malins qui peuvent faire ça, ils reviennent après, ils te causent des ennuis.
Hein. Tout à fait, il faut être très prudent donc quand vous achetez votre maison, d'abord de vous assurer que vous achetez la maison auprès du véritable propriétaire de cette maison. Et ces choses-là se vérifient au service du conservateur des titres immobiliers qui a la maison vendue dans sa juridiction. Et là-bas, on vous dira effectivement en consultant le dossier que cette maison-ci, cette parcelle, est inscrite dans nos livres au nom de telle personne. Ceci peut vous rassurer, vous pouvez donc acheter auprès de cette personne-là. Donc n'achetez jamais auprès d'une personne qui ne détient pas le titre de propriété.
Grande difficulté, c'est qu'on a assisté, par exemple à Kinshasa, à une maison, une parcelle qui a deux titres de propriété parallèles. Donc la seule maison appartient à deux personnes à la fois et ils vous brandissent des titres de propriété. Et vous avez l'impression que c'est du vrai.
Exactement, je vous dis, oui. Ça ce sont des situations tout à fait anormales dans la mesure où si on appliquait strictement la loi.
Oui.
Et je crois qu'il faut quand même encourager le gouvernement actuel parce que le ministre actuel cherche à remettre de l'ordre.
Oui.
Ça veut dire qu'il reconnaît quand même qu'il y a un certain désordre dans le secteur.
Mmh.
En principe, si on applique strictement la loi, disais-je, il ne peut pas y avoir deux titres en vigueur parce que pour établir un autre titre, le conservateur doit d'abord exiger qu'on lui remette l'ancien,
oui.
qu'il annule avant d'établir le nouveau certificat d'enregistrement. Et donc, s'il y en a deux en circulation, vous comprenez qu'il y a déjà une faute de l'administration
oui.
dans la mesure où, à ce moment-là, ça veut dire que le conservateur n'a pas annulé le premier. Mais bon, qu'à cela ne tienne, effectivement, beaucoup de gens sont victimes de ce que vous dites là-bas. Elle achète au prix d'une personne et quelques temps après, l'ancien propriétaire ou le propriétaire plus ancien
oui.
vient avec un autre titre qui n'a jamais été annulé et qui est aussi en circulation.
Et c'est très complexe. Hein.
Malheureusement, dans ce cas-là, si on va en justice, la tendance c'est que c'est l'ancien titre non annulé
qui est considéré.
Alors, heureusement pour l'acheteur de bonne foi qui s'est fait ainsi tromper, le vendeur qui lui a vendu a une obligation de garantie contre l'éviction. C'est-à-dire que lorsque moi je vous ai vendu et que quelques temps après vous êtes évincé de votre droit par oui. un autre propriétaire,
mm-hmm.
moi qui vous ai vendu, je vous dois dédommagement et restitution du prix que vous m'aviez donné. Voilà un peu comment les choses se passent, mais le propriétaire de l'ancien titre demeure le légitime propriétaire du bien.
Je dois vous restituer l'argent, mais si après la vente il disparaît dans la nature.
Ah, beaucoup de gens sont vraiment victimes de ces choses-là.
Alors, à ce moment-là,
je pense qu'il faut. On a vu des actions dirigées contre les agents de l'État
oui.
qui ont fait que cette situation puisse arriver. Mais elle est tout à fait anormale et il est vraiment souhaitable, s'agissant surtout d'immeubles, parce que là, c'est souvent des investissements de toute une vie.
Mm-hmm.
Il est vraiment souhaitable que l'État mette davantage d'ordre dans ce secteur-là, parce que franchement, c'est des désillusions terribles pour certaines familles.
Oui. Des questions, des réactions. Vous avez été victime d'une telle situation. Composez 081 896 3 94. Maître Guilain Malher Moudikiriza est là pour vous rendre service.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Alors, Maître Valère, donc, juste après la vente, l'achat, exigez au propriétaire de vous remettre immédiatement le titre de propriété.
Oui, tout à fait. Il faut d'abord commencer par signer un contrat, hein, un contrat oui. de vente, hein,
mm-hmm.
Par lequel vous spécifiez clairement que le propriétaire cède tous ses droits sur le bien qu'il vous a cédé, en l'occurrence une maison. Ensuite, vous allez devant les conservateurs des titres immobiliers pour effectuer la mutation. Et là-bas, le conservateur lui-même déjà va exiger que le vendeur remette le titre. Donc, vous avez vous-même intérêt à demander au vendeur de vous montrer le titre avant d'acheter
oui.
et d'aller avec vous ou de vous les donner pour que vous puissiez le remettre au conservateur afin que la mutation soit opérée en votre nom. Alors, il faut dire ici, s'agissant des formalités, que l'acte de vente que vous devez signer doit être passé devant le notaire. En matière immobilière, on n'accepte pas un acte de vente uniquement sous 5 privés, c'est-à-dire signé seulement entre les individus.
Oui.
Il faut que le notaire aussi soit pris à témoin, qu'il puisse authentifier l'accord. Alors, quand vous allez à l'hôtel des villes, vous verrez que là, énormément de précautions sont prises. On fait venir le vendeur, on fait venir l'acheteur et on prend des photos de tout le monde. Ceci, c'est pour limiter au plus les cas de fraude et pour pouvoir bien identifier les personnes qui s'adonnent à ce genre de choses. Alors, une fois que le notaire est vraiment rassuré, eh bien, il authentifie votre acte de vente.
Oui.
Alors, c'est avec cet acte de vente notarié, donc authentifié, que vous allez vous présenter devant le conservateur des titres immobiliers. Soit dit en passant, il faut aussi noter que, exceptionnellement, la loi permet que le conservateur lui-même puisse jouer le rôle de notaire s'agissant des actes de vente des biens immobiliers, donc des maisons.
Mmh.
Alors, à ce moment-là, vous faites la même formalité devant le conservateur. Vous verrez que là aussi, la même rigueur s'applique. On appelle tout le monde, on prend des photos, etc. Et on récupère l'original de l'ancien certificat d'enregistrement qui doit être nécessairement annulé avant l'établissement du nouveau certificat et l'enregistrement de ces nouveaux droits dans le registre du conservateur. Si les choses se passent comme ça, vous êtes sûr d'être à l'abri des surprises. Mais lorsque vous faites confiance, comme certaines personnes ont tendance à le faire, faites-moi confiance, vous savez que j'ai toujours habité cette maison depuis toujours.
Non, il ne faut pas se fier à tout ça.
Exactement.
C'est des beaux discours.
Ce sont ces beaux discours-là qui font que de nombreuses personnes tombent dans des pièges. Alors, il y a peut-être aussi un cas dont nous devrions parler toujours à propos d'immeubles, c'est à propos des héritiers, parce qu'il n'y a pas que l'acte de vente qui peut faire de vous un propriétaire. Il y a aussi l'acquisition par décès du propriétaire, et donc les ayants droit lui succèdent dans leurs droits. Là, il n'y a pas d'acte de vente. Eh bien, souvent aussi, on a vu des héritiers qui se retrouvent comme ça, du jour au lendemain, propriétaires, entre guillemets, d'un immeuble, mais qui ne font aucune formalité, se contentent tout simplement du fait qu'ils sont le fils ou les filles de telle personne qui est décédée, et considèrent que l'immeuble est à eux. Ce n'est pas encore une fois automatique, il y a des formalités à remplir. Et parmi lesquelles, une ordonnance du tribunal de grande instance, qu'on appelle une ordonnance d'investiture, par laquelle la justice vous reconnaît, vous, comme héritier légitime devant hériter de ce bien. C'est avec cette ordonnance que vous irez chez les conservateurs.
Ordonnance d'investiture.
Oui.
Est-ce qu'il ne faut pas procéder à une liquidation?
Non, c'est lors de la, comment on appelle, de la succession, de la liquidation de la succession.
Oui.
Et quand l'immeuble, par exemple, qui appartenait au défunt père, tombe dans le lot qui est destiné aux héritiers, donc à ses enfants, qui sont les héritiers de la première catégorie, eh bien, il convient que ces enfants, qui deviennent dès leur copropriétaires, puissent faire la mutation aussi en leur nom de cet immeuble-là pour qu'ils en deviennent réellement propriétaires. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas du seul fait du décès du père que vous, enfant, vous devenez automatiquement propriétaire de la maison qu'il laisse. Encore faut-il que l'État fasse aussi la mutation en votre faveur, fasse un autre certificat d'enregistrement en votre nom et annule celui du défunt. Et donc, pour y arriver, beaucoup d'héritiers ne savent pas qu'il faut aller au tribunal de grande instance solliciter ce qu'on appelle une ordonnance d'investiture. Et le juge l'accorde après avoir fait une petite enquête, après avoir fait publier votre requête dans les journaux, dans quelques journaux de la place qu'il va choisir. Et après, 4 mois après la publication de ces journaux, le juge, une fois rassuré, peut faire une ordonnance, vous délivrer une ordonnance, vous reconnaissant comme héritier devant, hériter de notamment de l'immeuble laissé par le défunt. C'est avec cette ordonnance que vous allez maintenant vous présenter devant le conservateur des titres immobiliers, qui établira alors un nouveau certificat d'enregistrement en votre nom, en annulant celui de votre défunt parent, et à ce moment-là, vous devenez propriétaire. Autrement, vous ne l'êtes pas encore, vous n'avez que la vocation à devenir propriétaire. Et donc, votre droit n'est pas tout à fait sécurisé. Donc, il était bon aussi que nous puissions dire un mot de cela.
Parce qu'il peut y avoir parmi les héritiers un qui est plus malin et qui va, il va jouer un mauvais tour, un sale tour aux autres, et c'est la désolation.
Exactement. Ou qui vend même, avant même qu'il n'y ait toute mutation, ni en sa faveur, ni en faveur de ses frères et sœurs, il vend le bien. Alors, vous comprenez là qu'il s'agit d'abord d'une vente d'un bien qui ne vous appartient pas encore. Mais plus grave, il s'agit de la vente d'un bien sur lequel d'autres personnes ont une vocation à devenir propriétaire. Et ça donne des procès inextricables, je vous dis, Jody.
Voilà, nous avons en ligne M. Kitambala qui nous appelle depuis Kinshasa. Kitambala, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Les explications, les juristes que vous avez à l'antenne nous satisfait totalement par ces explications. Mais nous avons des difficultés pour obtenir, par exemple, le certificat d'enregistrement où on nous dit qu'on ne paye rien que 100 dollars. Mais je connais plus de 7 cas où on demande 500, 800 et jusqu'à 700. Et maintenant, dans le cadre de mutation, Sincèrement, nous avons un problème très sérieux. Vous voulez faire procéder à la mutation, mais on demande presque la même chose pour obtenir un certificat d'enregistrement. Dans ce cas, quelle explication peut-il nous donner? Puisque nous gardons, après avoir acheté, nous gardons les documents sans pour autant procéder à la mutation compte tenu des exigences de l'État.
Oui, alors M. Kitamala, dites-nous combien on vous a demandé, par exemple, pour opérer
De toute façon, il y a plus de $200. Plus de $200. Alors que, à la radio, je vous suis régulièrement.
Oui.
Vous dites non, pour obtenir le certificat d'enregistrement, il suffit de donner $100. Mais vérifiez un peu, papa. Passez un peu au bureau. Tentez un peu avec $100 pour voir ce qu'on va vous exiger.
D'abord, c'est...
Les experts qui doivent descendre, donnez autant.
Les géomètres, oui.
Documents, vous donnez autant.
Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations. Maître Guilain, qu'est-ce que vous direz à M. Kitamala?
Je remercie beaucoup notre auditeur, M. Kitambala, pour les renseignements qu'il nous donne, parce qu'une partie de sa question est constituée des renseignements qu'il nous donne.
Oui.
Mais je voudrais peut-être nuancer un peu ses propos en disant ceci, que lorsqu'on parle du coût de $100 pour obtenir un certificat d'enregistrement, je me souviens que même ici à Kinshasa, il y a eu une campagne dans ce sens,
oui,
organisée par le gouvernement lui-même. Eh bien, il s'agit de la conversion des anciens titres de propriété, c'est-à-dire les livrets de logeurs, en certificat d'enregistrement.
Mmh.
Mais là, c'est le même propriétaire qui avait un ancien titre et qui veut obtenir un certificat d'enregistrement. Alors, en ce moment-là, pour l'établissement du certificat d'enregistrement, on demandait de payer un forfait de $100 et le nouveau titre vous était délivré. Mais c'est vous-même, l'ancien propriétaire, qui demeurait propriétaire à ce moment-là. Or, ici, nous sommes en train de parler de la mutation.
Oui.
S'agissant de la mutation, c'est que vous passez d'un ancien certificat d'enregistrement qui appartenait à quelqu'un d'autre vers le vôtre que vous demandez qu'on vous établisse. Alors, si les frais peuvent globalement se résumer autour de $100 pour obtenir l'instrumentum, c'est-à-dire l'acte lui-même, il ne faut pas oublier qu'il y a les droits des mutations. Ça veut dire les 6% de la valeur du bien que vous avez acheté de l'immeuble, que vous devez verser pour le compte de l'État. Donc, en cas de mutation, de transfert d'un bien d'un ancien propriétaire à un nouveau propriétaire, ces droits proportionnels là-bas de 6% élèvent davantage les frais. Donc, je suis d'accord...
Alors, mais ces droits-là, c'est à la charge de qui? De l'acheteur, ou bien il va se les partager avec l'ancien propriétaire?
Non, souvent, dans le contrat, vous savez, vous êtes en train de vouloir acheter le bien, l'acheteur et le vendeur est comme en position de force, hein,
oui.
Et donc, ils mettent dans le contrat que tous les droits, taxes, etc.
C'est à la charge, c'est à votre charge.
C'est à la charge de l'acheteur.
Oui.
Et donc, par rapport à cela, c'est l'acheteur qui est frappé. Et donc, vous comprenez que ça rend lourd la procédure.
Mmh.
Donc, je suis donc d'accord pour dire qu'effectivement, il y a beaucoup trop de frais officiel, tout comme officieux, malheureusement,
oui,
qui tourne autour de la mutation.
Il faut motiver tel, il faut faire ceci,
gauche, exactement, et c'est tout ceci qui décourage les citoyens, qui font que, comme dit à juste titre M. Kitambala, beaucoup de gens préfèrent alors garder leur ancien titre.
Oui.
Et il en est de même pour les véhicules, hein, lorsqu'il faut aller au service de l'impôt, où on vous demande aussi de payer, je crois, un droit de, je sais pas, la hauteur c'est combien, mais un droit proportionnel sur la valeur du bien. Alors, à ce moment-là, souvent, les gens préfèrent, plutôt que de payer, de multiplier les frais, motivation à gauche, à droite, ils maintiennent les anciens titres.
Oui.
Mais ce n'est pas bon.
Ce n'est pas bon.
Ce
oui.
n'est pas bon. Donc, il faut accepter ce sacrifice en souhaitant vraiment que le gouvernement aussi fasse sa part d'action en réduisant au plus ses frais, qui finalement freinent même le commerce. Parce qu'il faut diminuer les taxes pour permettre aux transactions d'avoir lieu.
Voilà, Jeff nous appelle, il est à Kinshasa. Jeff, bonjour.
Bonjour.
Oui, on vous écoute.
Oui, nous avons une parcelle à Lodja,
oui.
Fonds d'avance que mon père avait acquis. Alors, il est au Kivu, il a laissé la parcelle à un membre de famille qui, à son tour, a vendu une partie de notre parcelle. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer cette partie de parcelle que l'autre, parce qu'il n'avait aucun droit, aucun document. Bon, ils ont fait comme papa n'est pas là, alors je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire pour récupérer cette partie de parcelle vendue?
Oui, est-ce que la mutation avait lieu?
En tout cas, jusque-là, je ne pense pas.
Maître Guilain.
Tous les documents, l'original est entre les mains de papa à Béni.
Oui.
Et l'autre, on avait des copies. Je ne sais pas sur base de quoi on a fait tout ce qu'il y a là.
Oui, Jeff a tout à fait raison. Ça, c'est encore une fois nos mentalités que nous allons appeler rétrogrades, qui veulent que les membres de famille considèrent que tous les biens de leurs frères
leur appartiennent
et qu'ils peuvent donc poser n'importe quel acte, notamment des actes d'aliénation comme celui-là. Ça, c'est un acte d'aliénation. Vous vendez une partie de la parcelle
qui ne vous appartient pas.
Qui ne vous appartient même pas, tout simplement parce qu'elle appartenait à votre frère qui vous l'a laissé en garde, par exemple. Et donc, la réponse claire à cette question, c'est que dans des actions comme ça, dans des situations comme ça, vous disposez de deux actions. Premièrement, vous pouvez attaquer la vente pour qu'elle soit annulée, parce qu'il s'agit de la vente qui est effectuée par une personne qui n'a pas la qualité pour vendre. Donc, ils peuvent attaquer cette vente pour en obtenir l'annulation. Et s'ils n'ont pas peur des problèmes familiaux, ils peuvent aussi attaquer cet oncle-là pour stéléonat, c'est-à-dire au pénal. C'est une infraction qui peut l'amener en prison. Stéléonat, ça veut dire la vente d'un bien immobilier appartenant à autrui. Mmh. Mais le plus facile, c'est d'attaquer cette vente là-bas, d'en obtenir l'annulation par les juges et d'obtenir éventuellement des dommages intérêts auprès de la personne qui a vendu, et de cette sorte-là, vous récupérez votre bien, et comme vous avez déjà les titres de propriété en votre nom, il n'y a pas de problème. Donc, c'est souvent en laissant impunis les auteurs de tels actes qu'on favorise, on encourage la perpétration des phénomènes.
On vous dira non, attention, c'est un grand, il est réputé grand sorcier, il est très redoutable, il risque de causer beaucoup de tort à ceux qui vont oser, quoi.
Malheureusement, mais je sens Jeff quand même, notre ami Jeff, déterminé,
oui.
Et donc il faut qu'il sache que la justice est là pour ça. Qui ne craignent pas de saisir les instances judiciaires, et comme de plus en plus on voudrait que dans notre pays la justice fasse effectivement son travail, voilà un cas concret à soumettre à la justice congolaise.
Radio Okapi, Okapi. Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94 et envoyez vos SMS au 081 070 20 50. Ou bien écrivez-nous à action@radiookapi.net.
Maître Guylain Malher, pour la mutation d'un véhicule, c'est la même procédure.
Exactement, c'est une procédure similaire,
oui.
Mais s'agissant du transfert, donc la mutation, nous avons dit que c'est le transfert du droit de propriété.
Oui.
Le véhicule, c'est un bien mobilier, un bien meuble, que l'on peut donc déplacer.
Oui.
Alors, dans le cas du véhicule, attention, le transfert de propriété s'effectue dès que la vente est conclue. C'est-à-dire, dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, eh bien, il y a automatiquement transfert de propriété. La formalité qui est faite au niveau des contributions s'agissant des titres, c'est-à-dire la carte rose que l'on établit au nom du nouveau propriétaire,
oui.
Ce n'est pas cette formalité-là qui transfère la propriété comme dans les cas des immeubles. C'est pour ça que je disais qu'il y a une certaine analogie, mais la comparaison se limite à cela.
Oui.
C'est-à-dire pour la maison, il faut absolument qu'il y ait établissement du nouveau certificat, et c'est le nouveau certificat qui établit votre droit de propriété. Mais pour la voiture, ce n'est pas la nouvelle carte rose qui établit votre droit de propriété.
Mmh.
Le droit de propriété est transféré dès que la vente est conclue. Donc, il faut qu'on s'entende sur ça.
Oui.
Mais il est quand même conseillé d'avoir les différents titres de propriété, enfin, les différents titres qui identifient la voiture par rapport à vous, son détenteur. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent servir des preuves de votre propriété, le cas échéant, lorsque celle-ci viendrait à être contestée.
Oui.
Donc, à part le contrat de vente, vous pourriez, en ce moment-là, produire le titre qui est la carte rose et les autres titres qui démontrent que le véhicule est à vous. Mais ce n'est pas ça qui établit le transfert de propriété, je le répète, c'est le seul acte de vente. Dès qu'il y a accord des parties sur la chose et sur le prix, eh bien, à ce moment-là, la propriété est transférée. D'ailleurs, il y a un principe plus ou moins dangereux en droit, qui dit qu'en matière de biens meubles, eh bien, la détention vaut titre. Le fait seulement que vous détenez ce bien là-bas, on présume que vous êtes vendeur. C'est celui qui vous conteste la propriété qui doit démontrer que non, ce bien ne lui appartient pas.
Oui.
En termes de biens meubles, les choses sont plus facilitées. Mais pour les immeubles, l'État a voulu mettre un peu plus de garanties.
Des garanties, oui. Alors, pour la mutation des véhicules, ça tourne les frais à payer. Hein. Vous avez une idée, ça tourne autour de combien?
Oui, je crois que globalement, ça tourne autour de 120 à 200 dollars aussi pour obtenir des nouveaux papiers en votre nom. Et je mets là-dedans toutes sortes de frais, évidemment. Mais je crois que
les frais connexes,
hein. Comme on les appelle, parce que souvent les gens n'ont pas le temps d'aller suivre par eux-mêmes.
Ils passent par des intermédiaires.
Oui, passer toute une journée au service des impôts pour obtenir qu'on vous établisse des documents à votre nom. Alors souvent on envoie des tiers.
Oui.
Et donc avec une enveloppe de 150 à 200 dollars, m'a-t-on dit, eh bien on parvient quand même à avoir la nouvelle carte rose à votre nom ainsi que les autres documents.
Voilà, c'est bien dit. Merci beaucoup à Maître Guylain Malher, à Moudé Kereza, consultant l'ONG RCN Justice et Démocratie. Si vous voulez suivre cette émission, alors allez sur le site internet de Radio Capi, www.radiocapi.net, et vous allez suivre cet entretien. Maître, bon, merci et bon début de semaine. Hein.
Merci à vous, Jody. Merci à Radio Capi, à toute l'équipe technique.
Au Capi.